Vous écoutez présentement l'épisode 5 d'une série de balados divertissants visant à éduquer, sensibiliser la société sur les conditions féminines. Bonjour et bienvenue au balado inspirante conçu par et pour les femmes ou toute personne s'identifiant comme telle. Aujourd'hui, on reçoit Madame Isabelle Proulx, présidente de Proulx Communication, établie à Repentigny depuis 1997, conférencière, consultante passionnée, mais avant tout une femme inspirante. Bonne écoute.
Inspirante.
Bonjour Madame Proulx. D'abord, j'aimerais vous remercier du temps que vous nous accordez. Et d'entrée de jeu, je voudrais vous féliciter pour vos 25 ans d'existence de Proulx Communication.
Ah, oh, bravo! C'est... Vous avez fait le calcul, là, 1997!
C'est quoi Proulx Communication?
Oh, Proulx Communication, comme on dit, établie à Repentigny depuis le jour 1. C'est une entreprise en communication, marketing, promotion. Alors, on fait du design, on fait des sites web, on fait... dans le fond, notre mission, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs, les PME, à atteindre leurs objectifs de croissance. Donc, on va les aider, les accompagner à développer vraiment leur offre de service via tout ce qui est publicitaire.
Et si mes informations sont bonnes, étant donné que vous avez le don de surprendre et de faire parler, j'imagine que vous faites parler vos clients pour apprendre à les connaître, connaître leurs besoins et être capable de répondre à leurs exigences.
Ah, je vous avouerais que c'est même un don. Je pense que c'est une des forces distinctives de l'agence, c'est vraiment notre compréhension des enjeux, la compréhension de ce que les entrepreneurs vivent afin de pouvoir leur trouver des solutions, des messages clés, des axes de communication qui répondent exactement à leurs attentes. Fait que ça, je vous dirais que c'est vraiment une force distinctive chez nous.
Bravo. Madame Proulx, je sais que vous êtes, si mes informations sont bonnes, toujours fille et petite fille d'entrepreneur. Quelles études avez-vous suivies pour en arriver à ça, mis à part le fait que vous aviez la fibre entrepreneur?
Ah, c'est bon. Vous êtes vraiment une bonne inspectrice, là. Alors, effectivement, mon grand-père, entrepreneur ici à Repentigny, avait un commerce de fruits et légumes sur la rue Notre-Dame, angle Cherrier. Mon père, ensuite, a pris l'entreprise familiale. Il s'est lancé ensuite dans l'immobilier. Maintenant, à la retraite, bien évidemment, mais toujours bien en vie, bien actif. Alors, je crois que oui, le feu sacré, il y a peut-être quelque chose d'héréditaire là-dedans. Mais il y a quand même un déclic qui s'est fait à un moment donné, du moins un déclic où j'ai découvert ce que je voulais faire. Je suis chanceuse, je l'ai découvert, j'étais très jeune, j'étais en sixième année, et je me suis dit, grâce à un professeur d'école qui m'a montré un peu qu'est-ce que c'était que faire de la publicité, j'ai fait comme, OK, moi c'est ça, je veux faire plus grande. Et là, j'ai commencé à analyser toutes les étapes requises pour atteindre cet objectif-là. Et je me suis ramassée au cégep de Jonquière. Alors, je me suis exilée, oui, au Saguenay, et je suis partie faire art et technologie des médias là-bas. Ensuite, évidemment, j'ai peaufiné mon expertise à l'université, à l'UQTR, au niveau de campagne, quand est arrivé le numérique, qui était complètement un nouveau média. Alors, j'ai dû me faire des mises à jour. Alors, je suis allée faire le cours en marketing numérique à l'UQTR, mais mon parcours est celui-là.
C'est bien. Si on vous parlait des difficultés que vous rencontrez en tant que femme entrepreneure, qu'est-ce que vous nous diriez?
Au départ, parce que si on fait le calcul, 97 fait 25 ans, j'ai parti l'agence, j'avais 27 ans, donc j'étais très jeune, ben très jeune. Je pense que j'étais à un âge où on considère plus ou moins, à cette époque-là, du moins, la crédibilité, le sérieux de la jeune femme entrepreneur que j'étais. J'ai cogné à plusieurs portes au niveau financement. Et on m'a, bon, sans dire fermé la porte au nez parce que c'était pas dans un contexte comme celui-là, mais on m'a gentiment dit « Ouf, va faire tes preuves et reviens me voir un petit peu plus tard. » Jusqu'à ce que je rencontre une femme chez Desjardins, puis je nomme la bannière. Donc, c'était une dame qui m'a écoutée, qui a vu la passion dans mes yeux, qui a vu toute la richesse que j'avais dans le cœur et la volonté de créer cette agence-là, et elle m'a fait confiance. Alors ça a été un gros cadeau de rencontrer cette dame-là, mais comme je vous dis, c'était le manque de crédibilité. Les gens ne nous prennent pas au sérieux, surtout quand on est une jeune femme, mais même j'ai entendu quelques années plus tard, après 2-3 ans où je suis en affaires, puis ça va quand même bien, je roule ma bosse, et on me dit « Ah, ça appartenait à ton père, cette agence-là ». Non, 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 j'ai commencé toute seule, j'ai pas besoin de personne pour commencer quoi que ce soit. Fait que c'est peut-être là où j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile.
Et même le nom de Prou, le nom de votre grand-père, de votre père, ne vous avait pas aidé au départ à avoir un prêt bancaire ou à... Vous étiez capable d'établir un plan d'affaires probablement, mais la source financière, même avec un nom comme celui de votre père, ça passait pas.
Non, ça a été vraiment difficile. On a eu le love money, là, on connaît bien. Donc, j'ai commencé quand même avec un petit peu de bagage, là, avec un petit paquet là, familial où on s'est dit, OK, Isabelle, on croit en toi puis on va t'aider. Mais à un moment donné, quand viennent les investissements un peu plus importants, c'est là où les enjeux sont un peu plus sérieux et c'est ça. J'ai cogné à 2-3 banques puis finalement, c'est chez Desjardins. Et je suis encore avec Desjardins 25 ans plus tard.
C'était d'ailleurs, je pense, le but de M. Desjardins quand il a fondé sa caisse, en fait.
Effectivement.
C'était d'aider les gens qui voulaient entreprendre, bâtir, construire, puis l'avenir était là, je pense.
Tout à fait.
Ils l'avaient compris. Ce que j'aimerais savoir aussi, c'est les défis, quand vous avez démarré votre entreprise en 97, si mes recherches sont bonnes, ça faisait déjà 25 ans que Cossette Communication était en affaires et ça faisait aussi 71 ans que Publicis était en affaires. Deux compagnies qui avaient été mises sur pied, bâties par des hommes. Vous arrivez dans un milieu comme ça, vous êtes une femme, les défis que vous avez rencontrés.
Au tout départ, ce que je peux, constater, c'est le manque de formation, le manque d'accompagnement. Aujourd'hui, il existe des gens, des formations, même d'ailleurs, j'enseigne au cégep pas tellement loin, lancement d'entreprise où on aide les jeunes à se lancer, se trouver des idées, bâtir leur plan d'affaires, faire l'analyse de marché. J'ai pas eu ça. Nous, à l'époque, en 97, comme si ça faisait très longtemps, mais c'est pas si vieux que ça, le 97, mais à ce moment-là, on avait une idée, on croyait qu'on pouvait le faire et on le faisait tout simplement. C'est comme ça que j'ai démarré l'agence. Je me suis dit, ben pourquoi pas? Alors, j'ai pas fait beaucoup d'analyses, j'ai pas fait beaucoup d'études de marché comme telles. Je me suis dit, j'ai le goût, je me lance, je suis allée avec tout mon cœur et ma passion. Et à partir de là, ben quand il nous arrive, il faut produire les bilans. C'est quoi vos ratios? C'est quoi vos états des résultats? Quand il arrive... Votre plan de croissance sur 5 ans, il est où? Je suis comme, là là! Alors, je me suis retrouvée beaucoup toute seule à travers ça. J'ai parti de l'agence toute seule. Aujourd'hui, on est rendu une dizaine d'employés, mais à l'époque, j'étais vraiment toute seule. Et je ne savais pas vers quelle porte me tourner. Je ne savais pas où aller chercher les informations qui me manquaient. Alors, je trouve que ça a été vraiment difficile, le manque d'encadrement et le manque d'accompagnement. Aujourd'hui, il existe plein d'organisations, puis d'organismes comme CITEC ici dans la région là, de Repentigny. Là, c'est plein de groupes là, qui peuvent aider les gens, les start-up à démarrer puis à les former. Beaucoup de formations aujourd'hui, mais à l'époque, beaucoup moins.
Et pensez-vous que si à l'époque vous aviez été un homme comme par exemple M. Claude Cossette, est-ce que ça aurait été plus facile?
Ah, je pense que oui.
Oui.
Oh oui, je pense que oui. Comme je vous dis, c'est... Quand on arrive à quelque part, on n'arrive pas sur le même pied d'égalité. Aujourd'hui, j'ose espérer que cette tendance se dissipe, là. Mais à l'époque, quand on rentrait à quelque part dans une pièce, un homme d'affaires qui rentrait versus une femme d'affaires, c'était pas du tout conçu, perçu de la même façon. Puis on sait très bien que un pouvoir perçu, c'est très important, là. Donc la perception des gens quand on arrive, c'est ça a un impact. Donc, j'avoue que un homme qui a parti une agence, puis là, on s'entend, vous avez nommé des grandes, grandes, grandes agences là, qui étaient vraiment des monstres à l'époque, qui existent encore d'ailleurs. Cossette est encore très, très actif, a su s'adapter. Mais c'est effectivement c'est deux mondes, deux mesures. En 97, c'était deux choses complètement différentes.
Et pourtant, j'écoute ce que vous... J'entends ce que vous me dites, là, puis je me dis... quand on regarde la phrase qui était le slogan de la Journée de la femme, « L'avenir est féministe », où finalement, on veut avoir un monde qui est tissé avec de la liberté, de l'équité, de la justice. Puis quand on sait aussi que dans cette période-là, dans la période de pandémie, qu'on est encore dedans, mais un petit peu moins, là, il y a 57 % des femmes qui ont vu une baisse de leurs revenus. Je vous écoute parler, là, puis je me dis, est-ce qu'on peut encore y croire à ça, l'avenir est féministe? Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça vous dit, ça, finalement?
Oh, j'aimerais tellement qu'on arrive à justement à un niveau d'égalité, un niveau d'équité, vous l'avez dit. Parce que, puis je trouve ça à la fois, c'est un peu un contraste dans ma tête, parce que je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un levier en tant que femme afin de m'élever au même niveau que les hommes? Je ne devrais pas avoir besoin d'un levier pour pouvoir être sur le même pied d'égalité que les autres. Puis d'un autre côté, je me dis, ben là, si ça nous le prend, ben on va le faire. Tu sais, fait qu'il existe aujourd'hui des regroupements, il y a des fonds de financement vraiment accordés aux femmes exclusivement. Puis je me dis, mais pourquoi il y a des fonds de financement accordés aux femmes exclusivement? Pourquoi est-ce qu'on a une journée de la femme? Est-ce qu'on est vraiment obligé? Fait que j'aurais envie que ça n'existe pas. Parce que dans le monde idéal, on serait tous égaux. Fait que il y a des choses qui se créent autour justement pour pouvoir pallier, pour pouvoir nous aider à se démarquer, puis à se rehausser. Puis une chance, je pense que c'est là aujourd'hui ce genre d'initiative-là pour vraiment essayer d'aller chercher l'équité. Mais j'aurais envie, moi, de souffler là, un vent là, d'égalité sur l'ensemble là, des jeunes entrepreneurs qui arrivent, puis du futur, là, j'aimerais beaucoup, beaucoup y croire à cette phrase-là.
Ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Avantages, désavantages. Quand on est un homme, on peut s'élever plus facilement dans la hiérarchie d'une compagnie. On a à la base, supposément, plus confiance en soi parce qu'on est un homme. Maintenant, en tant que femme entrepreneur, avantages, désavantages, qu'est-ce que ce serait pour vous?
La grande force, je vous dirais, de la femme, c'est son intelligence émotionnelle. On a une capacité de compréhension beaucoup plus subtile, beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde, qui nous permet d'avoir un portrait du travail, des ressources humaines, au niveau de la clientèle. Donc, cette intelligence-là émotionnelle, c'est une de nos grandes forces. Donc, un des avantages qu'on retrouve beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Fait que ça, je vous dirais que c'est quelque chose qui nous démarque et sur lequel on ne doit pas négliger parce que, avec l'employabilité d'aujourd'hui qui est très difficile, je pense que c'est d'avoir un entrepreneur, un patron, un employeur féminin qui a une intelligence émotionnelle bien développée, c'est sûr que ça peut faire une différence. Les désavantages, bien, c'est encore une fois la crédibilité. Est-ce qu'une femme a le même poids de décisionnel autour d'une table qu'un homme? C'est là où... c'est encore très difficile. Tu sais, on parlait, je disais tantôt, il y a comme une espèce de conflit à travers ma tête, même dans les conseils d'administration, quand on demande la parité, quand on exige un nombre X de femmes autour de la table versus le nombre d'hommes, mais je me dis, pourquoi est-ce qu'on doit exiger ça? Ça devrait être naturel. Ah, moi, c'est toutes ces petites règles-là qui me graffignent un peu.
Mais... Ça vous graffigne, mais j'ai l'impression que ça vous donne un petit boost en même temps pour dire, je continue.
Oui.
Et à ce moment-là, est-ce que pour la génération de jeunes filles qui s'en vient, là, qu'est-ce que vous auriez envie de leur donner comme conseil? Confiance en soi, lâche pas, vas-y.
Tout à fait.
Mais en plus, vous,
mais
là.
Principalement, il faut que les jeunes femmes, ou du moins les femmes en général, puissent développer quelque chose dans lequel elles se sentent bien. Il faut que ce soit quelque chose qui soit agréable, qui soit facile, qui soit... Et parce que quand je le répète souvent, là, c'est le leitmotiv à l'agence, là, quand on est bien, on est excellent. Et quand moi, je suis dans mon travail, quand je fais ce que j'aime le plus et que je le fais et que je me sens bien, les résultats sont toujours excellents. Alors, si la personne a des décisions à prendre, puis elle a un choix A puis un choix B, dans lequel des deux choix tu te sens le mieux? Faut que tu te sentes bien. Alors, fais quelque chose que t'aimes, quelque chose qui te passionne. C'est sûr que les résultats vont être extraordinaires.
Je comprends pourquoi les clients d'envergure nationale, vous les gardez, pas nécessairement pour vous, parce que j'imagine que l'équipe travaille avec vous également, mais vous portez une attention spéciale, je pense, aux clients nationaux, parce que définitivement, c'est votre compagnie qui rejaillit de tout ça, en fin de compte, là, avec le nom, quand on dit communication, pro-communication qui m'a aidé à me partir en affaires, à partir un site web et tout ça, c'est quand même quelque chose.
Là. Oui, effectivement. Puis c'est sûr que c'est un savoir que j'essaie de transmettre de plus en plus. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir mon garçon et ma fille dans mon entreprise. Alors oui, c'était peut-être un rêve fou que j'avais quand j'ai bâti l'agence, mais aujourd'hui, c'est la réalité. Donc, j'ai mon garçon et ma fille auprès de moi et c'est ma relève. Puis j'ai aussi tout le reste de l'équipe, mais j'ai cette transmission de ce savoir-là, de cette capacité-là que j'ai de, comme je disais, de bien comprendre les enjeux, d'être à l'écoute, de développer tout de suite, la tête roule sur qu'est-ce qu'on peut faire pour ce client-là, comment est-ce qu'on peut le faire pour le mieux, puis cette compétence-là, là, je suis en train de la partager à mon équipe pour que Pro Communication puisse perdurer dans le temps, parce que d'avoir donné son nom à l'agence, c'est quelque chose, parce que ça reste qu'on l'identifie beaucoup à moi. À un moment donné, je me suis questionnée, est-ce que je devrais changer de nom? Est-ce que je devrais trouver un nom un petit peu plus anonyme? Et quand j'ai fait le focus group, tout le monde me disait non, je ne change pas de nom. Pro Communication, ça fait 25 ans, c'est établi et ça a une très bonne réputation. Donc, continue de garder ça, conserve ça. Mais ce que j'essaie de faire maintenant est davantage transmettre la compétence au suivant pour s'assurer que la qualité va demeurer et perdurer. Puis ça s'appelle Pro Communication parce que en 97, quand j'ai commencé l'agence, là, ça s'est fait comme je vous dis, je pensais que je pouvais le faire, le jour que j'ai le goût, je le fais. Puis il y a déjà un client qui m'avait appelé, puis il m'a dit « Ok, j'aimerais ça te rencontrer la semaine prochaine, j'ai pas eu le temps de me trouver un nom plus original que de mettre mon nom de famille sur ma carte d'affaires. » Donc voilà, fait que c'est aussi simple que ça.
C'est peut-être ce qui est arrivé à M. Cossette aussi. Il a parti son entreprise finalement,
effectivement.
C'est ça. Écoutez, on en arrive à la fin de la rencontre. J'aimerais savoir ce que vous souhaitez pour la prochaine génération de femmes en général, mis à part le domaine des communications.
Oh, je leur souhaite plein de belles choses, c'est évident, mais ce que je voudrais... Puis j'en ai rencontré plusieurs femmes dans le domaine, surtout entrepreneurial, là, parce que j'ai siégé sur justement le fonds Femmes Essor qui s'appelle maintenant Evol, qui est un fonds exclusif aux femmes entrepreneurs. Et en siégeant sur ce conseil-là, je rencontrais beaucoup de femmes entrepreneurs. J'espère tellement qu'elles puissent obtenir ça. C'est de la confiance en elles. C'est d'arriver avec une assurance. Puis ça se peut que des fois, on démontre une certaine assurance, même si à quelque part, on a une petite inquiétude. C'est pas grave. Ça va bien aller. C'est sûr que ça va se passer. Donc, j'aimerais tellement que les femmes se découvrent, se dévoilent et arrivent avec une belle transparence et une belle confiance en elles. C'est ce que je leur souhaite.
Vous avez une citation fétiche, je pense, hein?
Oui!
Ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait.
Oui!
Écoutez, moi, quand j'ai regardé votre... Quand on m'a approché pour faire l'entrevue puis que je suis allée voir votre site, j'ai vu que vous aviez cette phrase-là et ce qui m'a marqué, c'est que c'était la phrase que papa me disait quand j'étais toute petite.
Oh, wow!
Tout ce que tu as à faire, tout ce qui mérite d'être bien fait. Alors, Madame Pro, moi, je suis très, très, très contente de vous avoir reçue au nom du Centre Interfemme, de toutes les participantes qui sont au Centre Interfemme, de tous les membres. Je veux vous souhaiter encore un bon 25e et un 25 ans à venir aussi.
On l'espère.
Et croyez que ce fut un réel plaisir d'être avec vous ce matin.
C'est partagé, merci. Ça a été très agréable. Merci, merci beaucoup d'avoir pensé à moi.
Ça fait plaisir.
Et oui, c'est ainsi que se termine l'épisode d'Inspirante. Mais avant de vous laisser, nous tenons à remercier chaque femme qui se sont impliquées à la réalisation du thème musical Inspirante, à la rédaction des questions ainsi qu'à la coordination du projet. Les trames sonores que vous avez entendues proviennent du site web Upbeats et ont été créées par les artistes Paolo, Calazzi et Walls. Mais le plus important, c'est qu'on sait que vous allez être des nôtres pour le prochain épisode. À bientôt!